Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Et vous écoutez France Culture. Des formes noires parmi les arbres étaient accroupies, gisantes ou assises, appuyées contre les troncs, collées à la terre, moins indiquées qu'effacées par la lumière trouble, dans toutes les postures de la douleur, de l'accablement et du désespoir. Joseph Conrad au cœur des ténèbres. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui s'enfoncera, que dis-je, qui va se dissoudre en ce dimanche dans les eaux saumâtres et opaques du fleuve des enfers, tel que figuré par notre invité Michael Matisse dans son album Kurz, faramineuse revisitation d'Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, une publication de l'éditeur belge Frémok, sur laquelle nous reviendrons en compagnie d'un de ses fondateurs animateurs, le dessinateur et scénariste Thierry Van Hasselt. Chronique en second temps d'émission, signée Antoine Guillot et Sixtine Audebert. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre bande dessinée, graphisme aujourd'hui avec un monument, n'ayons pas peur des mots, Kurz de Michael Matisse qui paraît aux éditions du Frémok et qui est, alors ça n'est pas une adaptation, est-ce une revisitation, est-ce une transposition, est-ce un cauchemar? En tout cas c'est à partir d'Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad et ça en est une vision totalement cauchemardesque qui non seulement égale mais sans doute dépasse par instant la puissance visionnaire de ce texte, aujourd'hui devenu totalement légendaire. Bonjour Michael Matisse.
Bonjour.
Bienvenue à Mauvais genre.
Merci.
Et merci d'arriver avec sous le bras, je dirais, cette extraordinaire performance qui est courte. On va pas vous demander dès maintenant combien de temps, pourquoi, comment, avec qui, mais c'est vrai que c'est une lecture, un parcours visuel qui est effrayant, qui est effrayant. Vous en êtes conscient de cette, de l'impact que le livre peut avoir sur le lecteur?
Pas forcément, non. J'ai l'impression que le livre est fort gros et que je l'ai un peu distribué autour de moi et j'ai l'impression que les gens le regardent avant de le lire. Et moi-même, je l'ai lu. Je n'ai pas arrêté de le lire pendant 10 ans parce que je l'ai monté, j'ai travaillé, j'ai dessiné, puis j'ai travaillé le texte. Et donc ça m'a pris 10 années et j'ai aussi travaillé. J'ai présenté des. Enfin, j'étais dans le livre, mais j'étais aussi à l'extérieur parce que j'ai consacré tout mon travail art plastique, tous mes dessins en galerie. C'était sur cette thématique et donc j'ai fait des très grands dessins qui ont été montrés aussi. Et voilà, donc c'est toute une histoire, toute une partie de ma vie.
Très bien, ben c'est cette histoire et cette partie de votre vie que nous allons évoquer aujourd'hui dans Mauvais genre. Vous êtes en compagnie de Thierry Van Hasselt, bonjour.
Bonjour.
Thierry Van Hasselt, Frémok, vous en êtes un des plus que la cheville ouvrière, pardon.
Oui.
On vous doit surtout un extraordinaire album paru récemment dont on avait parlé à Mauvais genre, donc la véritable histoire de Saint-Nicolas. Et tout cela sera évoqué en compagnie bien évidemment de Sixtine Audebert que je salue.
Bonjour François.
Sixtine Audebert qui publie récemment la suite de Requiem 1, ça s'appelle Requiem 2 Fanzine. Et c'est la suite de vos travaux de recherche pointilleux, méticuleux.
Pas uniquement, sur la presse spécialisée, c'est une partie, une toute petite partie là en l'occurrence dans ce Requiem 2 de mon travail. Le premier c'était effectivement sur le magazine culte Enfer Magazine, qui est plus un magazine amateur et fanzinesque aussi en diable. Là sur le numéro 2 on rentre un peu dans le dur, hein, c'est quasiment un petit bouquin avec un dos carré collé et c'est plus sur l'aventure de presse de l'époque, donc de la presse spécialisée. On peut citer quelques titres: Hard Rock Mag, Metal Hammer, Hard and Heavy et Rage. C'est un ouvrage vraiment sur la trajectoire de professionnalisation de ces cadors finalement de la presse rock de ces années-là. Voilà,
donc Requiem 2 Fanzine.
C'est trouvable.
On s'adresse à vous.
Soit à moi, soit dans les bonnes librairies parisiennes, hein, chez Parallèle, chez Apoum Bapoum, chez Arts Factory et chez Hors Circuit, bien sûr.
Voilà, c'est la manière de reconnaître les bonnes librairies. Monsieur Guillot, bonjour.
Bonjour, bonsoir, cher François.
Comment va-t-il ?
Ben, il va très bien.
Quelle est votre actualité ? Vous avez sorti aussi un fanzine ou non ?
Non, moi j'ai pas. Je viens de me plonger dans l'œuvre intégrale de Peter Weir pour une émission qui a été diffusée hier. Et ben, écoutez, ça vaut la peine. Il faut se replonger dans l'œuvre de Peter Weir, qu'elle soit australienne ou hollywoodienne. Tout est bon.
Oui, Peter Weir, donc, qui est un hommage à la Cinémathèque.
Invité d'honneur du Festival de la Cinémathèque, ex Toute la mémoire du monde, et qui permet de revoir sur grand écran un chef-d'œuvre absolu comme Picnic à Honking Rock.
Oh là là.
Et aussi, à l'autre extrémité, ce grand film paranoïaque qui nous parle du monde dans lequel nous vivons, qui est The Truman Show.
Très bien, bah oui, continuez à regarder, vous intéresser à Peter Weir, immense cinéaste. En attendant, bien nous allons nous enfoncer dans les profondeurs de la jungle conradienne en compagnie de Michael Matisse, l'auteur de courtes aux éditions Frémok. J'avais demandé à Laurent Polleret une musique qui évoque au mieux la progression d'une colonne angoissée, angoissante dans les profondeurs de la jungle. Je vois que nous sommes servis. Alors, on a évoqué donc Michael Matisse, on a parlé du Frémok. On va en dire un peu plus. Antoine Guillot, présentation à la fois de l'éditeur, qui est un éditeur clé dans le paysage de la bande dessinée européenne, et puis de Michael Matisse.
Un éditeur très à part, en tout cas. Alors, le Frémok, on le rappelle, c'est l'union transnationale entre un collectif belge et une petite structure de Montreuil. Au début, c'était le Amok et le Fréon, voilà, et ça a donné Fréon, et ça a donné le Frémok, FRMK pour ceux qui le voient graphiquement, qui a sa grande particularité d'explorer la dimension plastique de la bande dessinée, la dimension picturale. Ça a pu être du Alex Barbier, par exemple, du Dominique Goblet plus récemment, et puis on avait parlé de l'Almageste aussi, ici de Frédéric Cochet. Donc ce sont des bandes dessinées qui peuvent avoir l'air intimidantes au premier abord, parce que ça ne ressemble à rien de ce qu'on peut connaître de la bande dessinée en général, mais qui, une fois qu'on s'y plonge, vous happe, vous transporte, vous transforme aussi, comme c'est le cas de ce court. Alors Michael Matisse, que dire de Michael Matisse ? Il faudrait peut-être dire d'abord que c'est un carolo régien, un natif de Charleroi, au cœur du Pays Noir, dans la province de Hainaut, en Belgique. Pour autant, il n'est pas vraiment de l'école de Marcinelle, comme on parle de cette banlieue de Charleroi, hein, qui a donné les grands auteurs du journal Spirou. C'est quelqu'un, en fait, qui travaille la matière depuis longtemps, grâce notamment à une formation de graveur, de lithograveur. Si on en croit ses premiers travaux qu'il avait fait remarquer à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, il explorait déjà en lithogravure une jungle, déjà, mais la jungle charbonneuse de son pays natal. Et on en a eu un premier aperçu. Il est rare, hein, quand même, comme auteur. 4 livres en 20 ans. Ça a commencé en 2003 avec un livre qui s'appelait Moloch. Et Moloch, ce monstre d'acier dévoreur de ses victimes, c'était là les aciéries de Coqueril-Sambre à Charleroi, où ce livre, réalisé là encore en gravure, la gravure sur cuivre, l'aquatinte, à partir d'un reportage photographique qui est mis en scène à l'intérieur même du livre, nous donner à voir ces machines monstrueuses, invraisemblables, dont on ne comprend presque plus ce qu'elles, à quoi elles peuvent servir, si ce n'est à dévorer peut-être précisément les humains, dans cette technique qui déjà donnait ce qui peut être le principe même des images de Michael Matisse, c'est à la fois des images qui sont extrêmement fortes, mais qui sont déjà en voie de disparition. C'est-à-dire qu'on est presque comme dans le souvenir d'une force extrême qui était là. Alors, ça, c'est la première découverte. Mais Charleroi continue à être exploré, le centre-ville de Charleroi. Il y a un périphérique à Charleroi qui sert de principe giratoire au livre suivant, qui s'appelle La Ville Rouge. Alors, quand vous voyez La Ville Rouge, vous voyez d'abord un grand carré noir, mais derrière, vous avez une matière rouge assez inquiétante, parce que vous comprenez vite qu'elle est faite de sang, d'un sang qui ne vient pas de nulle part, puisque circuit court, il est récupéré dans les abattoirs de Charleroi et qui va être aussi un des grands principes directeurs de l'œuvre de Michael Matisse, c'est que c'est de la narration géographique, on pourrait dire. C'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression de faire un voyage sans comprendre tout de suite quel va être le principe de narration, mais vous vous laissez embarquer, en fait. Vous êtes comme dans une grande expédition, où vous soyez, alors que ce soit dans une usine sidérurgique, dans la jungle dont on va parler avec Ours, ou dans une ville, c'est un peu ça. Et puis il y a eu aussi ce petit livre tout à fait inquiétant qui s'appelle « Je suis un ange aussi », une sorte de goûter d'anniversaire.
Tout est dans le « aussi ».
De goûter d'anniversaire tout à fait terrifiant, avec un crayon absolument en folie qui a tendance à recouvrir de plus en plus le dessin et qui laisse une place énorme, et là encore c'est un trait de Michael Matisse, à l'interprétation du spectateur, du lecteur qui est embarqué dans ces histoires, mais qui doit se débrouiller aussi avec ce qu'il voit et avec comment tout cela résonne avec ses propres angoisses. Et tout ça nous amène à Kurtz.
Nous amène à Kurtz, dont on va parler. Quelques mots à la suite de ce que vient de dire Antoine, Thierry Van Hassel, sur Michael Matisse. Comment vous connaissez, le percevez, quand vous travaillez avec lui?
Oui, mais déjà beaucoup a été dit. Michael, je vois un artiste qui a une force de création d'images très très impressionnante. Je suis son travail et je vois. Enfin, je sais pas. D'une fois à l'autre, il y a 100 nouvelles pages qui sont arrivées. Le livre, il fait 200 pages, puis il fait 300 pages, puis il fait 400 pages. Une espèce de matière qu'on traverse, dont on en prend constamment plein la gueule dans ces images. Et il y a chaque fois ce rapport au texte dont on doit trouver, je parle vraiment de mon rapport d'éditeur avec ce travail.
Oui, oui, absolument.
De voir comment arriver à ce que le texte rentre et s'accroche et fasse encore vivre et amplifier ces images. Et moi, mon travail d'éditeur avec Michael maintenant, depuis qu'on travaille ensemble, il s'est vraiment joué dans des discussions autour de ça, quoi. J'ai l'impression que quand Michael avance avec des images, il avance vraiment comme une espèce de cheval au galop, quoi. Et on sent ça quand on le lit, que ces images, elles ont cette force, cette violence, cette puissance, et quelque part, il faut arriver à trouver un texte qui
s'insinue,
qui arrive à chevaucher ce truc-là.
C'est pas bavard comme travail graphique.
Et chaque fois aussi, c'est ça qui est super intéressant dans ce travail, c'est vraiment un travail de texte-image avec chaque fois des solutions de texte très très différentes. Et aussi, chaque fois, super innovante et très, très inventive. Des choses qu'on n'a jamais vues, je pense, en bande dessinée. Comme ce truc qui est très, très simple, mais de mettre un mot sur une image et de construire vraiment des phrases. En fait, la phrase est syncopée parce qu'on la lit en sautant d'une image à l'autre. On a envie d'aller vite parce que le texte doit aller vite, mais on est freiné parce que les images, on veut les lire bien. Et donc, on est pris dans une espèce de tourbillon.
Alors Michael Matisse, c'est notre quatrième livre, le premier Moloch, on vient d'en parler, ces gravures, cette gigantesque usine sidérurgique, et on sait ce que c'est que la sidérurgie dans ce pays. C'est quelque chose. Au départ, quel était votre projet? C'est un témoignage social? Est-ce que c'est un travail politique? Ou est-ce que justement, il y a un côté un peu Verhaeren, un côté Hugo, il y a une espèce de la volonté de camper la démesure, je dirais, d'une folie industrielle? Quel était votre projet de départ avec Moloch, disons? Prenons le premier livre.
Avec Moloch, en fait, c'était vraiment la démesure. Ça veut dire que j'ai eu cette expérience. Je suis rentré dans Carcit. C'était Coquerel-Sambre avant. Et donc Coquerel-Sambre. Et j'ai travaillé là en tant qu'étudiant. Et donc, c'était énorme, en fait. C'est quand j'étais à l'intérieur que je me suis dit, bon, il faut que je consacre mon premier travail en gravure sur sur l'usine, sur le travail aussi, sur les gens que je rencontrais. Et donc, j'ai mis en place tout un réseau pour pouvoir retourner après. Et l'ingénieur était d'accord de me suivre et de m'accompagner. Et il savait que j'étais étudiant. Et donc, il m'a fait visiter l'usine Et donc, j'avais mon casier, j'avais mon casque, et c'était une expérience. Et je l'ai travaillé en gravure parce que c'est en aquatine, parce qu'il y a cette poussière en permanence. Il y a cette poussière, et donc ça reste. C'est parce que c'est du fer en fait, et on fabrique du fer. Donc il y avait ce rapport comme ça très juste avec la technique et l'environnement. Et en fait, c'est un projet qui a continué, parce que quand le livre a été publié, donc j'ai pu retourner dans l'usine. Donc c'est ça, c'est que ça dure longtemps, mes projets, et que je fais pas beaucoup de livres. C'est parce que une fois que le livre il est terminé, mais il n'est pas vraiment fini. Donc je suis retourné dans Carcite et j'ai continué à les filmer et j'ai pu faire autre chose, quoi.
Avec déjà des partis pris qu'on retrouve, qui prennent dans Kurtz une dimension faramineuse, puisque c'est la question de l'esclavage, de l'asservissement colonial, c'est l'effacement du visage humain. Je veux dire, les personnages sont réduits à ce à quoi les réduit la machine industrielle, c'est-à-dire des présences, des actions et des silhouettes. Il n'y a pas de personnalité, ou alors très peu.
Non, il n'y a pas de vraiment de. Il y a les colons qu'on voit avec leur costume blanc. Ma tante était.
C'est dans Kurtz, ça.
C'est dans Kurtz, oui.
Mais aussi, il y a déjà ça dans Moloch.
Dans Moloch aussi, parce que c'est déjà une jungle en fait dans Moloch. Je suis déjà dans, que ce soit dans Moloch, que ce soit dans la Ville Rouge, et je suis déjà dans la jungle en fait. Il y a déjà cet enfermement. En plus, dans Moloch, on a ces toits en permanence, ces ponts qui bougent, et donc on a la lumière rentre, et c'est super beau, quoi. On est dans une espèce de cathédrale. Avec des choses extraordinaires, des choses qu'on ne boit pas, c'est énorme, quoi, c'est surdimensionné, on a des godets, c'est surhumain en fait, on est.
Antoine.
Thierry Fanassel parlait de la question du texte et son apparition effectivement dans Moloch est déjà saisissante parce que c'est moins du texte que du son. Ce qui est très passionnant dans ce livre dont vous dites qu'il a continué à exister après l'avoir fait, et on a l'impression que dans ce livre vous avez aussi toutes les étapes de fabrication. C'est à la fois le livre et son making of, c'est-à-dire que ce qu'on lit c'est ce que vous avez entendu quand vous y êtes entré, quand vous avez fait les photographies, que les gens se disent, mais c'est qui celui-là, ton père travaille ici, on vous appelle le gamin tout le temps, puisque effectivement donc, vous étiez étudiant à l'époque, et on arrive à partir de ces conversations et de votre dessin à imaginer le fracas démentiel qu'il y a aussi. Ça fait énormément de bruit, une usine sidérurgique. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de mettre ce son-là sur vos images,
Miguel Matisse?
En fait, c'était au départ, j'ai commencé à aussi écrire une histoire, mais ça ne fonctionnait pas, en fait. L'idée du reportage m'est arrivée après en disant, ben non, ça ne peut pas être juste. Donc j'ai réfléchi à comment les visites se sont déroulées, et surtout mon expérience en tant que quand je travaillais en tant qu'étudiant, j'étais pas manœuvre, j'étais aide manœuvre. Donc on est vraiment, on a appris à faire plein de choses. Et donc toute cette expérience où on était pris comme des gamins, vraiment, mais en même temps on était là et on nous donnait les choses que les gens voulaient pas faire. Et donc ça tombait. C'était juste, quoi. C'était vraiment expliqué. En plus, on est jeune. Enfin, moi, j'étais fort jeune, donc j'étais très dynamique. J'en faisais trop. J'en faisais beaucoup trop. Donc, et c'est vrai qu'on était, des gamins, quoi, en fait.
Sixtine.
Ce qui est très intéressant, ce qui ressort de ce que vous dites, bon, déjà, c'est trois lieux qui symbolisent le progrès, hein, que ce soit l'usine, la ville ou dans le mythe de Kurtz, l'idéologie colonialiste. Et on voit, en fait, que Votre rapport au texte, justement, traduit l'éclatement face à la sidération de la violence et justement cette incapacité à remettre du logos, de la raison, donc du discours, disons, proprement articulé. Ça vient sans doute, ça entre en résonance avec la violence des images que vous produisez.
Quel Matisse
Est-ce que vous dites, oui, justement, que vous avez eu au début, lorsque vous faisiez ce documentaire, justement, on a l'impression que votre intuition vous guide vers justement le saisir le matériau pour produire quelque chose, mais où vous butez peut-être tout de suite à ajouter un texte clair, un énoncé, mais qui est là, qui est larvé, qui est fort, une critique qui est extrêmement saillante, hein, étant donné justement l'acuité de vos images.
Michael Matisse.
Et ce qu'il y a, c'est que quand on est, dans le milieu ouvrier, la chose qui m'a marqué quand je suis arrivé, c'est qu'on crie toujours sur nous. On crie fort parce qu'il y a beaucoup de bruit, donc on est obligé de crier très fort, et le discours est très 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 brut, très direct. Mmh. Très grossier et très macho, et donc on est confronté et on comprend pas, en fait, au départ on est un peu on a mal, quoi, quand on est étudiant, qu'on arrive dans un milieu comme ça, on se fait engueuler tout le temps mmh. tout le temps, et donc c'est et ça correspond aussi par exemple une de mes expériences les plus dingues, c'est qu'il y avait des poutres métalliques avec des plats métalliques. Un plat métallique, je ne savais pas ça voulait dire quoi. Donc ça faisait 10 mètres de long, et alors il fallait prendre un plat d'un tel. Donc il y avait un pont, il fallait prendre le pont, il fallait prendre la pince grippante. Et donc quand on est jeune, on dit la pince grippante, est-ce que la pince va tenir et va soulever? Donc il fallait enlever les poutres avant. Et donc et en fait, on est confronté à quelque chose qui est totalement démesuré au niveau physique, mais aussi les gens, les ouvriers crient sur nous, quoi, en disant « Qu'est-ce que t'as fait ? » On se faisait toujours engueuler. Hein.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Voilà, toujours la playlist de Laurent Polleret, le grouillement du marigot et des bêtes qui s'affairent dans la vase profonde. Alors, on parlait d'Homologue, votre premier album. Le second, la Ville Rouge, voit effectivement l'apparition de ce rouge qu'on va retrouver dans Course. On s'achemine peu à peu vers Course, qui est le sang. Alors, quelle a été, là aussi, votre décision d'inscrire le sang, non pas par la forme de la couleur, du pigment, mais le vrai sang? Là aussi, c'est un geste politique,
Oui,
si j'ose dire.
C'est un geste... J'ai fait un premier essai sur... quand j'étais encore étudiant, un travail sur un taxidermiste qui empaille un animal... Et donc là, j'avais utilisé du sang de bœuf pour. Et donc c'était mes premiers rapports avec le sang. Et c'était un petit essai. Et donc j'ai voulu continuer. Enfin, ça m'a vraiment plu la matière. C'est très vivant en réalité. Et donc j'ai démarré la Ville Rouge avec cette idée de rendre cette ville organique, vivante et sauvage. Donc j'avais cette idée sauvage toujours en tête. Je voulais, contrairement à Moloch, où là on est dans quelque chose assez structuré avec la poussière, avec ce gris, ce noir, ce noir et blanc, là je voulais quelque chose de beaucoup plus vivant, de plus... mais organique, quoi. Et donc c'est... et donc j'ai commencé tout doucement à réfléchir sur... comment j'allais procurer ce sang,
Et donc là, je suis... au départ, j'allais voir chez un boucher, mais ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai été voir chez, dans les abattoirs, derrière la ville, à Charleroi. Et donc là, très vite, j'ai compris le système pour pouvoir... Et puis bon, j'ai pris l'habitude d'en faire... enfin, ça a été quelque chose... J'ai commencé avec ça, puis j'ai plus jamais plus... Enfin, je travaille toujours avec du sang, en fait. J'ai jamais su faire autrement. Enfin, c'est quelque chose de très lourd, en fait, et...
Symboliquement et techniquement, Thierry Vanassel, j'imagine que le sang, quand on devient un artiste qui arrive avec l'intention d'utiliser du sang de bœuf dans un travail à éditer, c'est...
Oui, bah, nous, on est plus ou moins partant pour pas mal de choses en général. On était quand même un peu étonné, mais je pense que dans ce récit, ça se justifie totalement parce qu'il y a quand même aussi un événement d'extrême violence autour duquel tourne le récit, et ça permet quelque part de ne pas l'aborder frontalement parce qu'il est là partout, parce que le sang est partout dans le récit et qu'on sent que cette problématique là, elle est centrale. J'ai l'impression que c'est aussi de nouveau quelque chose qui est un peu récurrent chez Michael, en fait. C'est un plasticien qui fait de la bande dessinée. Il y a vraiment une espèce de dispositif plastique qui s'étale sur l'ensemble du projet, qui évacue le récit, la linéarité et le feuilleton presque. Il n'y a pas vraiment de dramaturgie dans le sens classique, quoi. Il y a vraiment une espèce de dispositif plastique hyper puissant qui arrive comme un rouleau compresseur et qui nous roule dans ses pages jusqu'à la fin, nous laisser exsangues ici pour le coup.
Exsangues.
Bah précisément le sang, c'est, vous dites, c'est une matière organique vivante, mais c'est une matière aussi qui va vers la mort. C'est le problème du sang, c'est que ça coagule. Le devenir du sang, c'est la croûte. Alors je devrais pas dire ça à un plasticien, mais on le sent très fort d'ailleurs dans la présence du sang, notamment dans des pleines pages qui scandent régulièrement Kurtz. Alors, vous êtes habitué au Frémok à bénéficier des meilleures techniques d'impression et de reproduction pour pouvoir donner cette sensation presque d'épaisseur qu'il y a, puisque qui dit croûte dit quelque chose qui est rugueux, enfin qui accroche l'œil. Alors, comment est-ce que vous pensez quand vous dessinez, que vous peignez avec ce sang, le devenir, cette transformation qu'il va y avoir, où tout ça va coaguler et peut-être va donner quelque chose qui n'était pas attendu au départ. Peut-être d'ailleurs que vous le recherchez, Michael Matisse.
Michael Matisse.
C'est assez physique, en fait. Enfin, j'ai vraiment l'habitude avec, même au niveau de la conservation, c'est des problèmes qui ont été résolus parce que je plastifie les planches et donc la ville rouge a été plastifiée avec un polyuréthane. Par contre, ici, je l'ai pas voulu le faire pour Kurt parce que c'était inutile et le sang, en fait, tient très bien dès qu'il est, ça. Enfin, la manière dont je l'ai utilisé, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, et donc, en fait, c'est un jus, en fait, c'est très liquide. Et je l'ai mélangé au graphite, et en fait, c'est un colorant qui tient dans le temps, et qui ne part pas, en fait. Il y a juste le problème, enfin, moi, ça fait longtemps que je travaille avec, c'est quand on ajoute du sel, par exemple, pour empêcher la coagulation, enfin pour empêcher pour la conservation, il rajoute du sel et donc là c'est dangereux parce que le sel peut, ben ça c'est un aspect technique, mais bon. Sinon pour le conserver je mets du détol, enfin je sais pas, c'est
ça devient très très,
on va tout savoir, non mais il y a une autre question quand même avec le sang, parce que c'est quiconque est entré dans un abattoir un jour, c'est quand même que c'est une odeur assez capiteuse du sang quand vous travaillez. Est-ce que vous êtes quand même environné par cette odeur là est-ce que ça participe justement de la transe quasiment qu'on peut ressentir, nous en tout cas quand on lit Kurtz, je sais pas si c'est le vôtre.
Ouais, c'est très très lourd, c'est une odeur ça transforme un peu le dessin, ça donne un côté C'est par rapport à une autre technique, c'est beaucoup plus fort le sang en fait. C'est ça que c'est très difficile de faire autre chose à côté.
Ah oui, on y prend goût quoi.
Attention, là, ça devient compliqué là. Mais d'autant que le sang, comment dire, c'est pas, je dirais, une couleur rouge que l'on compose avec du sang et qui est un rouge traditionnel au sein d'un dessin. Le sang joue sa partie. Ça peut être parfois on a l'impression comme quelqu'un qui s'est essuyé ou qui saigne et qui veut absolument s'essuyer les mains ou des traces de sang. La manière dont vous inscrivez le sang dans votre travail, c'est une manière presque accidentelle, ce qui n'est pas du tout le cas, bien évidemment, puisque tout est très, très, très médité, très pensé techniquement et artistiquement. Mais on a quand même l'impression qu'un meurtre a été commis et que le criminel est parti et qu'il fallait s'essuyer rapidement et que voilà. Et je veux dire, le sang est mis en scène dans vos pages de manière violente. Je veux dire, c'est pas du rouge avec du sang, c'est le sang qui est là, c'est le sang qui crie.
Pour travailler le sang, en fait, j'utilise pas le pinceau.
Voilà.
Je prends de la bande Velpo, la bande de lin que je trempe, que je laisse tremper et je le laisse sécher. Enfin, il y a plusieurs états, donc il y a du très liquide, il y a du très. Et donc, c'est vrai qu'il y a. J'ai mélangé du sang avec de la terre pour représenter des. J'ai fait une exposition sur la guerre des tranchées, une exposition au musée de Charleroi, putain de guerre. Et donc c'était des grandes toiles pour représenter des cadavres dans la boue. Et donc j'ai travaillé au sang mélangé à de l'argile. Et donc ça donnait.
Alors on en arrive à Kurtz, Michael Matisse. Vous êtes attaqué à un texte qui est aujourd'hui iconique, totalement mythologique. Quel est votre rapport avec Conrad et avec ce texte? Est-ce que c'est une lecture qui vous a traumatisé, que vous aviez quelque chose à faire avec ce texte? Quelle est un peu votre histoire avec le texte de Conrad?
Mais en fait, j'ai commencé à lire Conrad pas pour Au cœur des ténèbres. J'ai commencé à lire Lord Jim parce que c'est un capitaine de bateau et je voulais faire un roman épique sur les mers et donc l'idée du personnage de l'écrivain m'intéressait et donc savoir qu'il avait vécu ses propres histoires et qu'il avait écrit. Et donc tout doucement, je suis arrivé au cœur des ténèbres. Et quand j'ai lu Le cœur des ténèbres, c'était un choc, quoi. Et j'avais toujours l'idée de continuer, donc de faire un livre sur les ténèbres, justement, sur la jungle, et donc tout de suite j'ai parlé de mon quartier avec Molog, j'ai parlé de la ville, de ma ville, et puis de la Belgique avec
ouais.
Et donc c'était le prétexte, enfin le livre tombait juste à point pour pouvoir
évoquer la dimension colonialiste de l'histoire belge. Sixtine Audebert.
C'est vrai que ça se passe au Congo, qui est donc cette ancienne colonie belge, mais vous avez tout à fait raison sur
propriété privée du roi.
C'est ça.
Propriété privée, absolument.
Et c'est très intéressant que vous disiez ça, parce que c'est vrai que, bon, alors c'est un peu l'ensemble des romans de Conrad, de Lord Jim y compris, mais c'est vrai que c'est à l'origine, c'est un roman initiatique, un roman d'aventure, le cœur des ténèbres, qui doit mener effectivement à la révélation centrale qui est finalement, comment dire, avec un dispositif hein, qui enchasse différents discours. Il y a le narrateur externe, Marlowe, qui guide, qui tient en haleine son lecteur, parce que il met en scène son récit, pour aller rencontrer donc Kurtz, qui n'est un personnage qui n'est censé être que parole, hein, paradoxalement, puisqu'il s'appelle Kurtz, et que Kurtz, ça veut dire court en allemand. Et effectivement, lorsque, au fur et à mesure qu'il pénètre au cœur des ténèbres, hein, partant du continent blanc à l'extérieur des colons, il va se passer une explosion hein, de l'idéologie qui est celle du monde colonial, et en arrivant au cœur, une rencontre déceptive hein, avec l'horreur. Et c'est amusant que vous disiez que vous avez été guidé par votre envie de faire quelque chose autour de Lord Jim, mais que vous soyez aspiré au cœur des ténèbres progressivement, puisque ça semble être des thématiques qui vous hantent et qui reviennent naturellement sur vos... Alors que vous n'étiez pas parti pour faire ça, vous revenez naturellement à cette question.
Michael Matisse.
Je n'étais pas parti pour faire...
Vous avez dit que vous partiez au début pour faire Lord Jim. C'était ce qui a été votre porte d'entrée sur Conrad.
Sur Conrad. Donc en fait, oui, mais l'idée du livre sur... ça a toujours été quelque chose... ça a toujours été un projet de livre que j'avais envie de faire, mais pas forcément... l'adaptation de Joseph Conrad au cœur des ténèbres. Donc je veux dire, donc j'avais toujours eu cette idée. Au départ, ce qui m'intéressait, c'est Aguirre de Herzog. Ah ouais. Et donc il y avait cette idée comme ça. Et Conrad, ça a été vraiment la révélation parce que c'était justement l'idée. À cette époque-là aussi, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais aussi toute une série d'autoportraits. Donc je travaillais sur moi-même et sur ma famille. Et donc le fait de parler du Congo, c'était aussi parler de ma famille, parce que j'ai de la famille qui est partie au Congo. Mmh. Et donc, tout était mis pour que je fasse ce livre.
On va écouter un extrait, donc, lu par Sixtine Audebert, d'Au cœur des ténèbres.
Toute l'Europe avait contribué à produire Kurz. Et j'appris bientôt que, comme il était on ne peut plus à propos, la Société internationale pour l'abolition des mœurs sauvages lui avait confié la rédaction d'un rapport pour son orientation future. Et il l'avait même écrit. Je l'ai vu. Je l'ai lu. Il était éloquent, vibrant d'éloquence, mais trop exalté, je pense. Il avait trouvé le temps d'en écrire 17 pages serrées. Mais ça avait dû être avant que ses nerfs ne se détraquent et ne le conduisent à présider certaines danses nocturnes terminées par des rites innommables qui, pour autant que j'ai pu conclure à mon corps défendant de ce que j'ai entendu dire à divers moments, lui étaient dédiés, vous saisissez, à Monsieur Kurz, en personne. Mais c'était un beau morceau de style. L'auteur commençait par cet argument que nous, les Blancs, du fait du degré de développement auquel nous sommes parvenus, devions nécessairement paraître à leurs yeux, ceux des sauvages, sous les espèces d'êtres surnaturels. Nous les abordons avec une puissance quasi divine, et ainsi de suite. À partir de là, il prenait son essor et m'emportait avec lui. La péroraison était magnifique. Bien que difficile à retenir, voyez-vous, elle me donnait le sentiment d'une immensité exotique gouvernée par une auguste bienveillance. Elle me causait des fourmillements d'enthousiasme. C'était le pouvoir sans limite de l'éloquence, des mots d'une ardente noblesse. Aucune suggestion pratique ne venait interrompre le flot magique des phrases, à moins qu'une sorte de note en bas de la dernière page, griffonnée manifestement beaucoup plus tard d'une main fiévreuse, ne puisse être tenue pour l'exposé d'une méthode. C'était très simple. Et à la fin de cet émouvant appel à tous les sentiments altruistes, cela flamboyait sous vos yeux, lumineux et terrifiant, comme un éclair dans un ciel serein. Exterminez toutes ces brutes!
Michael Matisse, vous parliez de ce livre comme une tentative d'autoportrait. Peut-être, on pourrait dire que c'est l'autoportrait de Kurz aussi. Ce livre pourrait s'appeler « Au cœur de Kurz » ou « Dans les ténèbres de Kurz » parce que le choix radical que vous faites, c'est de nous plonger vraiment dans sa tête, dans sa représentation du monde hallucinée, dans ses paroles éructées mot par mot, comme disait Thierry Fanacelt tout à l'heure, dans une espèce de boucle où les mots n'ont presque plus de sens, où on sent qu'ils sont criés par une voix peut-être en train de mourir ou déjà morte, parce que ce livre a aussi eu un côté danse macabre. Cet homme, les images qu'on voit, ce sont presque des fantômes qui nous regardent ou qui regardent Kurz, ou peut-être qu'on devient Kurz en lisant ce livre. Les orbites sont creuses, les yeux sont vides et on est regardé en face en permanence. Comment vous est venue l'idée d'adapter le cœur des ténèbres par ce prisme-là, par le regard peut-être mort de Kurz?
Michael Matisse.
Mais en fait, quand j'ai commencé à travailler ce récit, j'ai commencé un travail aussi en galerie et j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à dessiner toute une série de fantômes qui ressurgissent pour venir nous prévenir. Donc j'avais cette idée comme ça. Et donc
les personnages sont arrivés comme ça, en fait. C'est à chaque fois, ça s'est passé. Donc c'est fini, c'est notre histoire, et donc ces gens reviennent pour témoigner. Et donc je suis parti sur ce prisme-là. Donc
on a le sentiment que vous travaillez à partir effectivement d'une mémoire matérielle. On voit souvent, on imagine des photos de groupe, par exemple. Les coloniaux adoraient se faire photographier, alors soit en groupe entre eux, soit avec, n'est-ce pas, l'indigène qui venait de fouetter, de soumettre, soit parfois, avec le gibier,
la tête coupée de l'indigène, parfois.
Voilà. Donc il y a un goût pour la représentation chez les coloniaux, et on a l'impression là que vous avez mis la main sur une sorte de trésor dans une malle, une espèce d'énorme collection de photos, et que ces photos, avec le temps, ont été moisies, abîmées, effacées, et néanmoins, ce qu'elles représentent remonte encore plus fort que si le document était intact. Il y a tout un travail sur la perception de la mémoire. Michael Matisse.
Oui, il y a beaucoup d'archives. D'abord, des archives, des photos qu'on connaît avec les mains coupées, par exemple. Il y a des photos culte en fait, hein, qu'on peut retrouver partout, et il y a aussi des archives personnelles, donc qui viennent de ma famille, et donc là c'est vraiment tout le travail qui a été réalisé en galerie avec donc sur partie de ces images, de ces clichés, et je les ai un peu je les ai adaptés pour le roman, mais aussi pour chaque dessin, pour avoir ce regard comme ça, pour avoir cette idée de dire bon, pourquoi ils sont là, et un peu comme un avertissement, c'est un peu comme il y avait cette idée d'histoire, parce que bon, quelque part, c'est quelque chose qu'on nous dit pas, quoi. En tout cas, en Belgique, on nous parle pas de cette histoire. On l'apprend pas à l'école, en fait. Mmh. Et donc, c'est après quand on lit justement Conrad, ou qu'on va lire d'autres livres comme Congo, ou comme qu'on découvre des choses. Mais c'est pas en Belgique, quoi, qu'on va avoir. Et donc, il y a cette idée comme ça, ce travail qui s'est fait à mais d'abord très physique aussi, hein, parce que ce sont des grands dessins. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de dessins qui ont été réalisés en très grand, en même temps que le travail des planches.
Précisément, c'est ce que je trouve très, très fascinant dans ce livre. Je parlais de logique géographique de la narration tout à l'heure. On a ce sentiment, quand on lit le livre, qu'on est entraîné dans ce voyage, sans jamais trop se repérer, mais on sait qu'on va quelque part, et qu'on est pris. On ne sait plus du tout le temps qu'on peut avoir passé à lire ce livre. On est quasiment en apnée tout le temps. Et moi, je suis très curieux de comment ce livre est composé. À quel moment, dans tous ces dessins qui vous viennent, il commence à y avoir une logique narrative, que certains dessins sont là pour vous amener, pour nous amener quelque part. À la fin, en plus, toute cette composition devient folle, puisqu'on se rend compte que les dessins reviennent. Donc on est pris dans une sorte de bégaiement mental, où on n'arrive plus du tout à avancer. On est pris dans le surplace. Comment est-ce que vous pensez cette composition du livre,
Michael Matisse?
En fait, le livre a été monté de manière, au départ, comme pas un reportage, mais je voulais que tout soit coupé, en fait, tout soit cuté, un peu comme un disjockey prépare une soirée, et donc va préparer ses séquences. Et donc là, j'ai vraiment séquencé en disant voilà, il me faut beaucoup de jungle, il me faut beaucoup de massacres, il me faut beaucoup de, et donc il y a eu tout un rapport comme ça, tout un recensement de choses pour pouvoir ensuite remonter ça, cuté et remonter dans, et suivre un peu un schéma narratif, et un peu comme dans le film Sans soleil de Chris Marker. Ça m'a vraiment marqué, parce qu'il y a des images choc comme ça à un moment donné, où je me souviens d'une girafe une image de chasse où le chasseur tire dans le cou d'une girafe, et c'était rien que ça, c'était glaçant, en fait. Et donc je voulais quelque chose qui parte comme ça, et
Thierry Van Hasselt, comment s'est passé le travail? Est-ce que,
j'imagine, qu'est-ce qu'il fait l'éditeur dans, ce, dans, voilà, dans ces cas-là?
Pareil, périple.
On discute pas mal quand même. Je vois passer des versions et je pense que le travail avec Michael, il faut trouver une façon de travailler qui est très particulière et très très différente avec un autre auteur, mais je pense qu'on ferait moins qu'on travaille avec tous des auteurs, donc il faut trouver une manière particulière, parce qu'ici j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une question d'intensité de sensation et de qualité d'abstraction, disparition des formes, apparition, fulgurance de la violence, calme, enfin c'est des questions de rythme. Toi tu parles de disjockey, moi je dirais une espèce de rythme musical comme ça, avec des climax, avec des cymbales, avec il faut que les rythmes montent, qu'à un moment ça pète, que ça redescende. Et donc moi j'étais plutôt vigilant sur, en fait, parce que je vois bien que Michael il est dans ces images, elles sont hyper puissantes, et moi j'arrive avec des trucs, à un moment je dis peut-être qu'à un moment il faudrait que les images soient plus précises, la violence soit plus nette, ou je trouve qu'à un moment ça il faut peut-être que là il faudrait quelque chose qu'on reconnaisse un peu plus, genre par exemple les mains coupées, ou et on discute quand même pas mal de ça. Donc Michael dit non, ça va pas, alors c'est trop, on est trop anecdotique. Et je pense que c'est vraiment des discussions autour des intensités, quoi, et de comment faire monter cette intensité, comment garder cette intensité, comment la faire varier pour qu'elle lasse pas et qu'on n'ait pas l'impression effectivement d'avoir déjà relu ça. Donc c'est une espèce de question presque de niveau sonore du récit, et on a quand même pas mal discuté de ça, et les discussions autour du texte sont un peu du même ordre, en fait. C'est comment créer le rythme scandé, comment le lecteur va s'avancer là-dedans, comment ça va résister, comment il va quand même comprendre des choses.
Avec quand même ce sentiment de une sorte de déluge absolument qui tombe sur les images et qui tombe sur... J'ai un peu pensé au film de Friedkin, Sorcerer, qui est un remake du Salaire de la peur, où il y a justement des passages diluviens, comme ça, où le déluge des eaux tombe sur les ponts avec le camion, et on retrouve, Antoine Guillot, un peu cette impression comme ça de...
Ah bah ça vient à la fois...
Fin du monde et de début du monde. À
la fois, effectivement, de cette technique de fusion qui est lavé par le sang, donc tout ça coule, tout ça devient imbibé. C'est là que je parlais de la trace et de la disparition tout à l'heure. Et puis au milieu justement de ce côté poisseux presque, enfin on sent l'humidité de la jungle, il y a ces apparitions d'animaux qui sont à chaque fois comme des sortes d'épiphanies. Tout d'un coup un animal est là, dans son évidence, dans son être. Alors là encore, est-ce que c'est une façon de ponctuer le récit sur le conseil de votre éditeur, ou d'où sortent ces animaux tout d'un coup qui nous apparaissent vraiment, mais comme une révélation à chaque fois.
Michael Matisse. Mais les animaux, c'est le massacre. En fait, c'est mon côté écologiste. Comme ça, je trouve qu'à un moment donné, l'homme arrive et saccage tout. Et donc la chasse, je suis anti-chasseur. Donc à un moment donné, je trouve que dans ce récit. Et surtout les mains coupées, c'est parce que c'est un rapport avec la chasse. Donc on a les balles qui ont été utilisées, c'était pour aller chasser, et donc et n'ont pas été utilisées pour intimider, et donc c'est pour ça qu'à un moment donné il manquait autant de balles, donc il fallait couper autant de mains. Et donc il y a tout ce rapport à la chasse qui est quand même important, parce que c'est l'homme qui arrive, l'homme occidental qui arrive et qui écrase tout sur son passage, et qui coupe des cornes de rhinocéros, qui tue des éléphants pour prendre l'ivoire. Et il fallait évidemment montrer la nature qui souffre, c'était pour moi, c'était la chose, enfin c'était important, en fait, de mettre ces animaux, l'horreur, en fait, c'était vraiment montrer ça aussi, quoi.
L'horreur, ben notre entretien, Michael Matisse, s'achèvera sur le mot.
So there was this boy and this girl, and they'd never met. They'd never spoken to each other or even seen each other. But one day the girl wrote a letter to the boy. The boy was lying in bed one morning when the letter arrived. He heard the postman, and he hoped it might be one of the songs he'd sent off somewhere, coming back with some good news. All that turned up, though, was was a letter from his friend from school, who'd gone off to art college in Dundee. But the letter had another letter inside it, in another envelope, and that was the letter from the girl. And they began to write to each other a lot, the boy and the girl. For a long time, one of them would get a letter every day, and they wrote about everything, about themselves and about the world, and they wrote their own world, and they lit the whole thing up.
Chronique maintenant dans Mauvais Genre. On commence avec vous, Antoine Guillot.
Alors, c'est un peu dans un autre genre que ce dont on a parlé tout à l'heure, mais on reste en Belgique avec Max de Radiguès.
C'est l'essentiel.
Max de Radiguès, qui lui aussi est éditeur, puisqu'il a, il a été un des éditeurs du collectif L'Employé du Mois, et réédition chez Casterman de deux livres de Max de Radiguès qui étaient parus auparavant en noir et blanc, et d'abord dans des fanzines auto-éditées par Max de Radiguès, c'est Orignal et Bâtard. Alors là, on est dans la ligne...
Orignal, c'est canadien, monsieur.
Oui, mais enfin, voilà, c'est un Belge qui regarde l'Amérique du Nord, ce qui est déjà pas mal, dans une ligne claire en apparence très simple, mais qui en fait fait des récits tout à fait mauvais genre. Orignal, c'est une histoire de harcèlement scolaire au lycée. Un jeune garçon, parce qu'il est le fils d'un couple lesbien, est harcelé par une brute de lycée, mais un orignal, je parlais de l'apparition des animaux chez vous, comme il marche pour aller au lycée pour éviter le car scolaire où il se fait harceler, ben un jour dans la neige, qu'est-ce qu'on rencontre? Un orignal. Qu'est-ce qui va arriver avec cet orignal et cette brute? Vous le saurez en lisant cet Orignal chez Casterman. Et puis Bâtard. Alors Bâtard, c'est très fascinant parce que là, on n'est plus du tout dans le nord enneigé, on est dans le sud désertique des États-Unis, dans une histoire de couple d'un garçon et une jeune femme en fuite. Quelle est la nature exacte de leur relation? Vous le saurez en lisant ce Bâtard tout à fait tarantinien. On est un peu dans un côté Kill Bill avec une histoire de trahison entre gangsters, de sacs remplis d'argent. Et c'est tellement, ça a tellement plu aux Américains que c'est en train d'être adapté en série télévisée. Donc je vous recommande, ça se lit très bien et très formidablement, Orignal et Bâtard. Alors dans le genre ligne claire aussi, et là on retrouve le sang peut-être de Michael Matthews, puisqu'il en est beaucoup question, c'est « Oh, Lenny » d'Aurélien Maury. Ça s'est paru chez Tenibis. Et alors, c'est une histoire de Desperate Housewife aux États-Unis. C'est une assistante vétérinaire qui vit à New York avec son mari, puis son mari est muté dans une ville, mais ça l'oblige à quitter son métier et à s'installer dans une banlieue périphérique, un pavillon tout à fait banal de la banlieue américaine où on s'ennuie énormément. Qu'est-ce qui va réparer cet ennui? De l'apparition d'une étrange créature, le Lenny de O'Lenny, une créature sans tête, mais avec des dents, des tentacules, pour lequel elle se prend d'affection, parce que le petit être est blessé, on l'a retrouvé dans un égout, et va se développer une relation tout à fait vampirique, à proprement parler, puisqu'il faut bien le nourrir, le petit, de temps en temps, et l'extase que l'on ressent quand on se fait mordre par cette bestiole est tout à fait vertigineuse, psychédélique, et c'est ce qui va arriver à cette jeune femme dans un récit qui part très très loin dans le bizarre et que je vous recommande absolument. C'est O'Lenny de Aurélien Maury.
Voilà. Qu'une couverture qui est quand même...
Une couverture où on voit une femme qui ferme les yeux sur un fond nuageux et de mer. Voilà, ouais. On se rend compte quand même qu'elle tient quelque chose qui ressemble à un tentacule. Donc quelle est la nature qu'on a? En fait, quand on relit le livre, on se rend compte que le prologue avec un traumatisme enfantin lié à une pieuvre dans une grotte peut provoquer, comment dire, une profondeur de l'inconscient propre à faire émerger les monstres. Donc c'est très très fort, hein, comme scénario et comme dessin. O'Lenny de Aurélien Maury, je pense que là encore ça ferait un film formidable. On le recommande à David Cronenberg.
Par exemple.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent cette fois.
Sixtine Audebert.
Oui, alors moi aussi, je reste dans les thématiques abordées aujourd'hui avec les géants de la littérature anglo-saxonne et donc le plus américain des auteurs français. Je vais vous parler de Philippe Djian, adoubé incendiaire à l'occasion de la sortie du livre d'entretien mené par Nicolas Bézard chez Mediapop Éditions. Alors en couverture, vous avez la photographie grisonnante d'un monsieur de 74 ans, l'œil vif et le sourcil mélancolique fronçant son crâne dégarni. Il est appuyé à la balustrade d'une terrasse. En ligne de fuite, la façade de sucre blanc d'un grand hôtel de station balnéaire et à l'horizon, un ciel luminescent écrasant l'océan. Ils ont annoncé des orages pour la fin de la journée, il a fait. Effectivement, ce cliché est comme extrait d'une scène des romans de Djian. Il est pris à Biarritz, où l'écrivain réside actuellement. Et donc, l'auteur et journaliste Nicolas Bézard, qui l'a rencontré, pour lui, c'est comme un pèlerinage auprès d'un maître sage à la stature imposante, une figure des lettres clivante, mais aujourd'hui un peu tombée dans l'oubli, sinon en désamour et qui est souvent reniée. Pourtant, au plus fort de son succès, donc l'adaptation évidemment de 37-2 par Benex au mi-temps des années 80, Philippe Djian incarnait le mauvais garçon, se situant délibérément en dehors de la littérature française. Il a bien rué dans les brancards et dans les bureaux de Gallimard, avec un style qui est inimitable, un style bizarre, qu'on décrit comme trop désinvolte, insaisissable en effet, donc pour les ayatollahs de la phrase obséquieuse et goulue, alors que Philippe Djian réduit la quincaillerie du décor à la portion congrue et privilégie le trivial dans la métaphore à base de boîtes de chocolat, de haricots qui collent au fond de la casserole et de prévisions météorologiques. Hein. Donc c'est cette langue particulièrement sonore, riante de simplicité, à l'image des paroles qu'il écrit pour Stéphane Echer dont on entend la chanson, qui est la quintessence du grand œuvre accompli par Djian, en héros de sa génération, tourné vers l'outre-Atlantique. Il accomplit donc ce merveilleux travail de passeur d'un panthéon américain de la littérature, une généalogie qu'il retrace dans l'excellent recueil Ardoise que je recommande à tous les auditeurs et donc qu'il évoque dans cette discussion, dont il dit qu'il y aura peut-être un deuxième numéro où il y aura des ajouts. Dans le premier tome, il y avait Kerouac, Salinger, Miller, Faulkner, et là il y aurait en plus peut-être Ellis, Ross et Stevenson et Conrad. Voilà, on attend ce deuxième ouvrage. Et donc, pour finir sur ce petit livre d'entretien, dans cette discussion, Djian et Bézard reviennent sur plusieurs thématiques, le métier d'écrire, le goût du cinéma, l'Amérique, rien de proprement inédit, mais le plaisir d'une intimité partagée en bord de mer. C'est un petit format d'une centaine de pages qui se glisse dans la poche et se savoure comme une conversation. Et si le geste de Nicolas Bézard est avant tout celui d'un auteur reconnaissant, je partage le sentiment ici de m'acquitter d'une dette en faisant cette chronique envers celui qui a reçu le premier l'étiquette controversée de littérature rock et qui est au programme de mes cours chaque année depuis que j'ai commencé à enseigner.
Merci Sixtine Audebert, merci Michael Matisse.
Merci.
D'avoir été en ce dimanche l'invité de Mauvais Genre pour un album exceptionnel que je resignale, donc Courtes aux éditions du Frémok, tout aussi exceptionnel. Merci Thierry Bonnassel d'avoir été notre invité. Votre histoire, véritable histoire de Saint-Nicolas, toujours au Frémok. Et idem pour Dominique Goblet et Kai Pfeiffer, Le Jardin des candidats ont été également évoqués ce soir. Original de Max de Radiguès.
Orignal.
Oh, pardon. Voilà. Autant pour moi. Chez Casterman. Bâtard chez Casterman. Toujours de Max de Radiguès. Et Olénie d'Aurélien Maury aux éditions Tanibis. Requiem numéro 2. Donc le fanzine de Sixtine Audebert. Voilà les ouvrages de ce soir dans Mauvais Genre. Toute l'équipe, Laurent Polleret, Florent Bujon, Claire Poinsignon, Claire Martin-Dugard, Sixtine Audebert, Antoine Guillot et François Angelier vous remercient d'avoir suivi l'émission Mauvais Genre. La semaine prochaine, ce sera des curiosités cinéphiliques. On partira notamment de L'Inconnu de Chandigore, de Massacre pour une orgie et des Menottes rouges. À bientôt.
Alto fuero, telmos ti para, alte melas, tareste polte. Alte quero, tentemos tiras, colte rafas, pelto mirelto, alto fuero, volte mi coris, alto di fuero, alte me volte, alto fuero, volte porel, alto minero, salte este bol, teros de bol, que voreste min, fuero, pa'l temeras, del tema estares, alte fera y alte tenera. Alto fuero, aliste para ti, pa'l decoro, celebra tenista.
Di poro, pele li fuero.